Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le débat à 20h, passé de 12 minutes sur France Culture en direct, le débat, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré aux nouvelles formes de la fracture numérique et donc de l'inclusion numérique et de ce qu'on appelle aussi, pour y remédier, l'alphabétisation numérique, par exemple. Et on en débat avec Gaël Duval, entrepreneur et fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche. Bonsoir.
Bonjour,
monsieur.
Bonsoir.
Vous avez été renommé d'ailleurs au Conseil National du Numérique.
Tout à fait.
Vous êtes le seul survivant. Hein.
Non, on est 3 survivants de la précédente...
Après l'hécatombe, vous voulez dire.
Non, mais il y avait eu une situation particulière, on était tous assez solidaires.
On ne va pas en faire le débat. Romain Piginel, cofondateur de Futur.io et ancien conseiller numérique, communication numérique, pardon, à l'Élysée.
Bonsoir.
Alors, on s'est déjà intéressé dans cette émission à la fracture numérique, notamment sous l'angle des problématiques d'accès, très géographiques, d'accès au réseau, de zones blanches, etc., notamment sur les territoires éloignés des métropoles, notamment encore par rapport à l'accès à la 4G ou à la fibre optique. Aujourd'hui et ce soir, on va s'intéresser aux nouvelles formes de fractures numériques. Ça ne veut pas dire que les anciennes n'existent plus, mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres types de fractures numériques, notamment le développement du numérique a fait naître de nombreuses promesses d'inclusion. Mais qu'en est-il réellement pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour d'autres populations, parfois un peu éloignées de la chose numérique? On commence peut-être avec vous, Gaël Duval, vous aimiez bien cette question, ce sujet. Comment est-ce qu'au fond le numérique se situe? Quelle est sa place dans l'inclusion sociale?
Il y a un énorme sujet, c'est que moi, à travers Je Change, on est installé à Agen dans le Lot-et-Garonne, donc on est un peu au cœur de ce challenge-là aujourd'hui. Mais l'inclusion digitale, elle a une énorme, le digital est une énorme chance pour l'inclusion parce qu'il est en mesure de résoudre énormément de problèmes, que ça soit sur la formation, que ça soit sur l'accès à l'information, que ça soit sur l'ensemble des problématiques liées au développement scolaire ou même à l'accès à la culture. Donc il y a énormément de chantiers à mener pour faire en sorte que une fois qu'on a résolu le problème des infrastructures, qui est un des sujets, et bientôt il y aura encore le démarrage de lutte contre les zones blanches
qui a été annoncé
récemment. Donc ça c'est une des premières étapes, mais les étapes suivantes, il est à la fois l'accès et il est à la fois les formations. Et la formation est un enjeu phénoménal parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que les régions soient pas à la traîne sur tout ce qui est entre développement des technologies digitales et des métiers du digital, et de faire en sorte qu'on puisse répondre à des besoins. Il y a plus de 80 000 emplois aujourd'hui qui sont en recherche, selon une dernière étude qui avait été annoncée au Web Today récemment.
Ça veut dire quoi en recherche?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de 80 000 personnes pour pouvoir travailler dans des métiers et du web marketing ou du digital en termes de développement.
Des codeurs
ou autre,
aussi.
Des codeurs et autres. Donc, il y a et dans les régions, je parle. Donc, les territoires et les régions sont vraiment au cœur d'un challenge pour à la fois accompagner l'ensemble de tout ce qui se développe, mais aussi être capable de répondre aux problèmes de formation et d'emploi.
Romain Piginel, sur ce diagnostic, j'imagine que vous partagez l'objectif, mais sur le diagnostic.
Ouais, bien sûr. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà effectivement, comme le disait très bien Gaël Duval, la puissance du numérique pour repenser la formation et puis pour arriver à apporter à des publics en difficulté des chances de se relancer, d'apprendre des métiers qui sont en tension. Et on le voit tous les jours. Moi, je travaille beaucoup avec ma société sur la blockchain. On doit former tout le temps des gens parce qu'on n'a pas aujourd'hui les talents qu'il faut. Puis après, il y a aussi l'autre facette, mais qui n'est pas totalement déconnectée, c'est les formes de nouvelles fractures ou de prise de distance que peut générer le numérique. Et ça, on a pas mal de données qui existent, que ce soit côté des études Emmaüs Connect, l'Agence française digitale, où on voit qu'il y a une proportion de la population, alors il y a différents chiffres, mais en gros, sur peut-être 10 à 13% de gens qui se disent en difficulté avec le numérique. Alors, il y a des problématiques physiques d'accès au digital, ça en a déjà parlé, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas faire, ne sont pas à l'aise. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on regarde, ça redouble souvent d'autres formes d'exclusion. C'est-à-dire que les publics qui sont touchés vont être des travailleurs, justement, qui sont durablement éloignés de l'emploi, ça va être des familles pauvres, ça va être des vieilles personnes en difficulté.
Donc on voit qu'il y a des migrants, évidemment,
bien sûr,
personnes étrangères.
Et donc on voit effectivement qu'il y a un risque qui est d'avoir un peu une espèce de façon de la Startup Nation, où il y aurait effectivement une élite qui accélérerait, qui irait toujours plus vite, et puis de l'autre côté des gens qui décrocheraient petit à petit, avec un effet parallèle que moi j'ai vu quand j'étais en fonction, qui est que de plus en plus l'administration se digitalise, par exemple, et c'est très bien, de plus en plus l'accès aux services se digitalise, et ça peut être effectivement à un moment un problème pour des personnes qui sont déjà éloignées du service public, déjà éloignées de l'accès justement à ce que peuvent avoir les autres Français, et qui en plus auraient un obstacle numérique digital qui se surajouterait. Donc évidemment, le digital, super outil pour inclure, pour créer des nouvelles formations, créer de nouveaux métiers, mais c'est aussi faire attention justement aux personnes qui n'ont pas forcément vocation à travailler dans le digital. Comment est-ce qu'on leur permet justement de rester accrochés au train et de pas être semés par une accélération
du wagon devant. Et d'un point de vue politique, il y a aussi un sujet qui est quand même assez challenging et important à relever, ouais. C'est que si on regarde, il y a quand même un risque de ce qu'on pourrait appeler le e-populisme, c'est-à-dire un populisme basé sur tous les méfaits du digital, qui en réalité sont pas des méfaits, puisqu'on a longtemps parlé du digital qui tuait des emplois, alors qu'aujourd'hui on voit bien et on démontre que ça
change les emplois, ouais.
Et qui change les emplois, mais même qui en crée des nouveaux, c'est-à-dire qui favorise le fait qu'aujourd'hui on est en...
Il en tue aussi chez les chauffeurs de taxi, chez les...
Non, justement, il en tue évidemment, mais il en fait muter plus qu'il n'en tue, et il en crée plus qu'il n'en tue dans tous les cas. Donc on est justement dans le digital, dans une situation où le digital est créateur de valeur d'emploi et non pas destructeur
d'emploi. Pour tous les deux, est-ce qu'un des risques, c'est pas ce qu'on certains ont appelé le solutionnisme d'une certaine manière, c'est de dire grâce à Internet, on va trouver des solutions pour tout, alors qu'en réalité, très souvent, on s'aperçoit que l'exclusion, c'est quand même des processus très complexes, l'accès aux données, aux informations sociales pour des migrants, pour des personnes retraitées, etc., ça reste difficile, et que trop croire parfois dans le numérique, c'est pas un peu prendre ses désirs pour des réalités.
Il y a effectivement ce risque-là, et enfin moi j'ai jamais vu ou entendu vraiment des gens qui pensaient que le digital allait tout révolutionner, tout résoudre.
Non, mais partout on dit on va créer une app, on va créer un site.
Oui, mais ce qui est vrai, en
et
revanche,
dans les ministères parfois qui ont du mal à évoluer, on crée des apps et c'est en fait des usines à gaz souvent qu'on crée.
C'est pas faux, mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que la solution est moins chère à trouver qu'avant. Le digital permet aussi ça, c'est que l'accès à la manière de le faire et le fait aujourd'hui que n'importe qui peut trouver la solution, alors qu'auparavant il y avait une sorte de responsabilisation de l'État pour faire en sorte que ça vienne de l'État et que toutes les solutions viennent de l'État. Aujourd'hui on se rend compte qu'avec justement le numérique, des solutions peuvent arriver à tout le monde. Il y a dans le domaine des migrants des solutions qui ont été trouvées par des toutes petites startups qui ont monté des applications pour aider à comprendre.
Et sur ce point, vous êtes d'accord, Romain Péginel?
Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il faut bien distinguer les actes, les initiatives personnelles et puis les discours politiques, justement. C'est-à-dire que c'est bien et c'est nécessaire que des acteurs privés, associatifs, tentent de trouver des solutions et les produisent. Après, là où il y a un solutionnisme parfois qui est dangereux, c'est plutôt dans les discours, je dirais, superstructurels qui sont tenus justement par les personnes qui parlent, donc parfois les médias, mais aussi les politiques. Et moi, c'est ce que je disais en préparant l'émission pour faire un peu de provocation, il y a aussi un risque d'exclusion numérique parfois chez les politiques. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, à savoir que aujourd'hui, on n'est plus dans la situation qui était peut-être celle encore il y a 5 ou 10 ans, où il y avait des personnes qui étaient totalement, qui n'avaient aucun intérêt ou aucune, je dirais, connaissance sur le digital. C'est fini, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, plus personne, aucun responsable politique digne de ce nom n'oserait dire ou essayer de se faire élire en disant ça sert à rien, c'est dangereux, etc. À part le hippopulisme, on parle de Gaël Duval, mais c'est encore un autre sujet. En revanche, moi en tout cas, mon sentiment et mon expérience personnelle, c'est que il y a deux sujets, c'est-à-dire que souvent il y a beaucoup de responsables politiques de premier rang, de premier niveau, qui pour des raisons d'âge ou de formation n'ont pas une pratique et une connaissance concrète de ce qu'est le digital, et pas qu'une question d'âge, parce que moi j'ai pu voir des collègues.
Oui, ils laissent faire ça à leur community manager.
Et alors, premier risque effectivement, et moi j'ai vu des collègues à l'Élysée plus jeunes que moi, donc des gens qui étaient techniquement digital natives, qui étaient passés par les meilleures filières de la République et qui n'avaient même pas une connaissance, de base des réseaux sociaux, des usages, et c'est un problème, parce qu'on ne peut pas être si éloigné, je dirais, de ce qui est la vie commune des concitoyens et avoir une vision claire des sujets. Et après, il y a l'autre risque que vous citiez à l'instant, c'est-à-dire la vision purement instrumentale de communication, c'est-à-dire je vais sur Twitter, je fais du digital. Et là où on a un vrai manque, un vrai besoin, c'est ce qu'on appelle un peu les humanités digitales, c'est à mon avis une classe politique et dirigeante qui est une vision claire du digital, c'est-à-dire qui voit les limites, qui voit les promesses, et qui soit capable d'avoir un discours critique, de comprendre quels sont des positionnements stratégiques à long terme, et qui n'y voit ni, je dirais, quelque chose qui soit une solution à tout, ni non plus, comme le disait Gaël Duval, une espèce de discours technophobe en disant au secours, il faut taxer les robots, etc.
Zoé Sfez.
Oui, la question des compétences, vous avez raison de le soulever, elle est aussi au niveau des décideurs. Alors on parle évidemment d'enseignement numérique, des risques numériques, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens qui ont une vraie connaissance, ne serait-ce que de l'économie? On parle de code, c'est très bien de parler de code à l'école, mais de cette industrie, de comment elle est née, de questions économiques tout à fait sommaires et dont on a l'impression que certains politiques ne les maîtrisent pas non plus.
Mais moi je vais vous répondre une chose très simple, c'est regarder les épreuves au concours d'entrée de l'ENA et vous aurez la réponse.
Il y en a pas ? Il y a pas ?
Bah, à ma connaissance, non, en tout cas. Et moi, je pense aujourd'hui, alors sans tomber non plus justement dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il faut être bon là-dedans et que c'est le seul truc qui compte. Si vous voulez changer rapidement les choses en France, dans la manière dont les choses changent, bah, changez le concours de l'ENA, changez le recrutement sur ces filières-là et faites en sorte qu'aucune personne ne peut devenir haut fonctionnaire sans avoir un check, je dirais, de ses connaissances. Encore une fois, pas juste de code ou de connaissances superficielles digitales, mais des humanités numériques, de stratégie, d'économie, comme vous le disiez.
Point important, la question des handicapés sur les publics handicapés. On a longtemps parlé des promesses du numérique, en particulier pour les sourds et muets, pour une part aussi pour les aveugles. Or, dans un article du magazine Socialterre de ce mois-ci, on apprend que le numérique n'a été que désillusion pour certains d'entre eux. Le député suppléant Mathieu Hanereau, lui-même aveugle, c'est un député suppléant La République En Marche, explique dans ce numéro de Socialterre que le numérique aurait dû nous permettre, dit-il, d'accéder à un panel d'informations, de démarches. Or, c'est l'inverse. On est dans une exclusion numérique plutôt qu'une inclusion.
Je crois un passage, c'est-à-dire tout ce qu'il dit est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, les technologies qui sont en train d'apparaître vont accélérer l'inclusion de...
Les commandes vocales, notamment.
Exactement. Le fait qu'on soit en train de passer d'un web qui était extrêmement écrit, extrêmement tapé, à un digital qui est extrêmement vocal.
Visuel aussi. Et on parle pas du rôle déterminant de la vidéo.
Et visuel, et effectivement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir une relation homme-machine qui est en train de se transférer en voix-tout-voix et
tout ce qui est intelligence artificielle.
C'est évidemment lié à l'intelligence artificielle, mais même à l'usage. Tout le monde prédit à un horizon inconnu, mais le fait que l'appareil, le device va disparaître parce qu'on va se retrouver dans un usage des services où il va y avoir effectivement les sujets de vidéos qui vont continuer à être regardés sur des tablettes et de jeux vidéo et autres, mais tout l'usage de l'internet,
vous aurez avalé la puce.
Quand vous demanderez un taxi ou quand vous demanderez un service de proximité, vous aurez pas une app, mais vous aurez juste la voix qui va le faire, parce que vous commanderez à travers la voix.
Dans ce même entretien de Socialterre, Mathieu Hanereau dit aussi, et là c'est une question franco-américaine, en France on met le produit sur le marché et c'est à nous, dit-il, nous handicapés, nous aveugles, de le rendre ensuite accessible. La démarche anglo-saxonne, c'est l'inverse. Vous achetez un iPhone, vous mettez le voice-over et il devient accessible sans rien télécharger. Une réaction sur ça, Romain Pigenel?
À part le déplorer, peut-être. Non, mais plus sérieusement.
Non, mais le côté français, au fond, où parfois on pense après aux usages, alors qu'aux États-Unis, on commence parfois par les usages. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le député.
On sait que la grande force des GAFA, pour ne pas les nommer, c'est qu'ils ont une logique de supprimer tout ce qui est la friction, de supprimer justement tout ce qui est pénible. C'est ce que disait juste à l'instant Gaël Duval. On voit bien que c'est la ligne technologique qui est suivie, c'est-à-dire de enlever de plus en plus tout ce qui est compliqué, tout ce qui fait obstacle entre la décision ou l'envie et l'action. Donc, je crois que c'est effectivement au cœur, pour des raisons purement, je dirais, pragmatiques, de la réussite des entreprises américaines. Après, moi, ce qui me semble sur ce sujet-là, et en écoutant aussi ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a une vraie voie, à mon avis, à tracer sur la France pour être la nation du numérique inclusif et pas juste d'un côté, je dirais, réparateur social pour soigner. Non, c'est parce que je pense qu'il y a à la fois, on est un pays où on a une conscience de ces problèmes-là, peut-être insuffisante, mais on l'a. On est un pays aussi où on dépense beaucoup sur le modèle social et à mon avis, il y a quelque chose à jouer là-dessus pour être, alors peut-être pas uniquement la Startup Nation, mais la Tech for Good Nation, ou avoir justement une vision stratégique globale où on arriverait à créer justement un numérique qui soit inclusif pour pas avoir après coup justement à devoir galoper derrière l'inclusion numérique.
Gaël Duval, à l'instant, Romain Pigenel évoquait justement le rôle des GAFA. Que pensez-vous et que peut-on penser, que doit-on penser des offres d'entreprises comme Google et Facebook sur ces sujets? Google vient d'ouvrir à Rennes son premier atelier du numérique. Un député a annoncé que sa démarche va dans le sens de celle du gouvernement d'Emmanuel Macron de former le plus de gens possible au numérique. Est-ce que ce retour vers l'inclusion et pour supprimer l'exclusion peut être fait par des entreprises comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon?
Tout ce qui peut être fait pour former les gens au digital est une bonne chose, ça c'est sûr. Après, il faut juste faire attention à un sujet, c'est que si Google forme au digital pour être vraiment totalement indépendant et autre, c'est bien. Si c'est pour former au digital, pour dépenser plus d'argent en achetant des mots-clés et en se voyant sur des moteurs de recherche, c'est pas la même démarche. Donc c'est là aussi où il faut être vigilant sur ce que font les GAFA. Et surtout, c'est pas que les GAFA qui vont remporter et travailler le sujet de la formation et se déléguer déléguer à ces compagnies-là l'ensemble de la responsabilité de la formation.
Ils sont jugés partis quand même.
Et surtout, moi, ce qui me choque beaucoup là-dedans, évidemment, c'est pas qu'ils le fassent, c'est leur droit, c'est le poids auquel on donne les politiques. Et moi, ce que j'appelle, c'est le syndrome de la poignée de main
qui
Zuckerberg.
Ils s'en réjouissent quand même.
Redites-nous le nom de ce syndrome.
c'est le syndrome de la poignée de main Zuckerberg, c'est-à-dire que pour être cool et connecté, on va se montrer avec le patron de Google ou de Facebook et autres, alors même parfois qu'il va juste annoncer qu'il crée 4 postes en France dans un laboratoire ou qu'il va former 50 personnes au numérique. Quand des entreprises françaises font pareil et on n'en parle pas, et avec tous les problèmes que disait Gaël Duval. Et moi, je soulève juste un autre sujet. On a quand même en France quelque chose qui s'appelle l'université, dont une des missions est la formation continue. Et on peut se demander pourquoi on n'essaye pas, justement, plutôt que laisser ces acteurs-là être dans un rapport à la fiscalité un peu, on va dire, compliqué, pour pas dire autre chose. On n'essaie pas de redonner un peu de moyens.
Pour être généreux. Ils visent plus les PME que l'université, enfin, en faisant ça.
Honnêtement, je pense que il y aurait plein de gens à l'université, si on recrée des postes, qui pourraient aller faire cette formation au numérique, qui sauraient faire, etc. Et voilà, pourquoi aller se prosterner
aujourd'hui devant ce genre d'acteurs. Vous cherchez une formation sur le numérique, pas uniquement sur les réseaux sociaux et de community manager, mais un petit peu dans le dur. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal, je vous invite tous à le faire, à en trouver dans les organismes de formation qui sont les plus faciles à trouver et les mieux répartis sur le territoire.
Bien, nous en restons là pour ce soir. On reviendra sur ces questions dans les semaines à venir. Dimanche prochain, dans Soft Power, on parlera de tout ce qui est autour de la nourriture, du food, du fooding, de la slow food et de tout ce qui est à la fois se mange à table, mais aussi en ligne, puisque tout ça explose et se diversifie sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas à Gaël Duval, entrepreneur fondateur de jechange.fr, et Romain Piginel, cofondateur de futur.io, tous les deux aussi un peu engagés politiquement, c'est pour ça que c'est un débat politique, où vous l'avez été. Merci d'avoir été avec nous
Merci
ce soir.
Merci.
Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Merci à vous, Zoé Fess, d'avoir été avec nous toute cette émission, comme chaque dimanche.
Merci à vous, Frédéric.
Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.